Bien, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence ce conseil municipal. Alors, nous avons le pouvoir de Madame Christelle Brunet qui est donné à Guillaume Viennois, le pouvoir de Bernadette Aupetit pour Faouzia Oumadi, le pouvoir de Thierry Baillet pour moi-même, le pouvoir de Sharan Mouavili pour Zélinda Scheller, et le pouvoir de Véronique Ferreira de Matos pour Ludovic Pingo. Il est là, Ludo ? Il est arrivé ? Non, pas encore. D'accord. Et le pouvoir, enfin, de Françoise Hoth pour Erwan Gargadenec. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs que je n'aurais pas notés ? Non ? Bien. Alors, avant de passer au vif du sujet, c'est notre premier conseil municipal depuis le décès de M. Valéry Giscard d'Estaing, donc je vous propose une minute de silence. Alors, le premier point à l'ordre du jour est l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020. Est-ce qu'il y a sur cet ordre du jour des interrogations, des demandes de modification ? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à son approbation ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le procès-verbal est approuvé. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est le petit théâtre, la demande de protection au titre des monuments historiques. La ville de Guéret est propriétaire donc d'un théâtre à l'italienne, situé entre le boulevard Carnot et la place Varillas. Il a été construit selon les plans de Vincent Boulle, architecte à Limoges, à partir de 1837. En 1932, le théâtre devient salle de cinéma, jusqu'à sa fermeture le 31 décembre 1983. En France, il y a 170 théâtres dits à l'italienne et seulement 8 qui datent de la première moitié du 19e siècle comme le nôtre. La qualité architecturale et patrimoniale de ce bâtiment n'a cessé d'être signalée par les différents experts du patrimoine bâti. À ce titre, le conservateur régional des monuments historiques a proposé le dépôt d'une demande de protection au titre des bâtiments historiques. En effet, jusqu'à ce jour, ce bâtiment a pu être préservé. Toutefois, il conviendrait de s'assurer de sa préservation dans le temps. Une protection au titre des monuments historiques pourrait alors le garantir. De plus, cette protection pourrait permettre, dans le cadre des travaux de réhabilitation à venir, de bénéficier de l'ingénierie des services de l'État ainsi que des financements BRAC. Il est enfin précisé que cette protection éventuelle générerait de fait un périmètre de 500 mètres de protection au titre des abords. Ce bâtiment étant déjà dans un périmètre délimité des abords, déterminé en 2013, c'est le musée du Présidial, celui-ci pourrait s'appliquer et se substituer à ce nouveau périmètre, c'est-à-dire que ça ne nous donnerait pas d'obligation supplémentaire pour les travaux qui pourraient se passer aux abords du petit théâtre sur les maisons individuelles ou les bâtiments appartenant à la ville, ce qui était une de nos grosses craintes pour demander cette protection. Alors, vous dire que la commission qui s'est réunie était très favorable à cette demande du petit théâtre en tant qu'inscrit au monument historique. Donc si on demande, si on accepte ce soir de le demander officiellement, on a, je pense, énormément, voire toutes les chances de bénéficier de cette inscription à l'intérieur comme à l'extérieur du petit théâtre, puisqu'au début on avait pensé qu'on pouvait juste faire classer le tablier de scène et puis les loges. En fait, quand les personnes sont venues faire leur inspection, elles ont été enthousiasmées par le petit théâtre à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Donc, vous dire aussi à titre d'information, liée au petit théâtre, qu'on s'achemine très sûrement vers une inscription au loto du patrimoine en tant que monument emblématique de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui veut dire que ce serait le bâtiment choisi au loto du patrimoine pour la région Nouvelle-Aquitaine, avec bien sûr, en dehors de l'aspect financement, qui n'est pas monumental mais qui est quand même intéressant, la publicité qu'on pourra avoir avant notre petit théâtre édité sur les bulletins de loto. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet, Monsieur Delettre? Attendez, on ne m'entend pas bien. Merci.
J'avais juste une question, mais il me semble que vous y avez répondu. Parce que le 500 mètres, ça fait quand même beaucoup. On a la certitude que cette protection ne nuira pas au réaménagement que le conseil municipal pourrait souhaiter. Place Varillas, bien sûr, Place Beaugnot, l'île aux Carnots, la rue de l'ancienne mairie, etc.
Oui, la commission nous a dit qu'on pouvait tout à fait profiter du périmètre qui existe déjà autour du présidial et qui se situe dans le même dans cette distance-là pour ne pas être amputé d'un autre périmètre autour du petit théâtre. Donc en fait, on va garder le même périmètre pour les deux bâtiments et en fait dans ce sens transversal, ce qui fait qu'on ne sera pas ennuyé si on a des travaux à faire. Est-ce qu'il y a... Oui, Madame Bonin.
Peut-être rappeler que cette notion de périmètre, c'est aussi pour des restaurations qualitatives, donc ce n'est pas forcément toujours une contrainte ou quelque chose de vraiment problématique, Monsieur Delay.
Alors, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que cette inscription nous permettrait, les uns et les autres, quand on sera plus là, d'être sûr que ce petit théâtre va pouvoir continuer à vivre dans ce qu'il est et qu'il ne sera pas transformé au gré des caprices des uns et des autres. Donc, on avait aussi très envie de garantir par ce biais-là sa préservation. Bien, alors je vais vous demander si... Oh, pardon, il y a une... Sylvie, tu... Non. Monsieur Correa.
Oui, Madame le maire, moi j'ai une question très rapide, parce qu'un classement, effectivement, comme on l'a dit, peut avoir des avantages... aussi des contraintes pour le petit théâtre en lui-même. Et quelles seraient ces contraintes là pour le petit théâtre? Est-ce qu'on les connaît? Au-delà du fait que, effectivement, comme vous dites, on peut le préserver de projets farfelus, je veux dire ça comme ça, je ne sais pas. Bon, bref. Quelles sont les autres contraintes?
Donc les contraintes, c'est de restaurer certaines parties qui sont d'un intérêt historique notable. Alors je pense effectivement à ce qui aux loges, au décor de scène, à l'arrière-scène, et aussi, c'est assez étonnant, mais tous les sièges en bois qu'on a au tout dernier étage, au poulailler du petit théâtre, qui sont totalement d'époque, la cabine de projection aussi, on aura une obligation de les restaurer dans leur jus, tels qu'ils étaient à l'époque. Sur le reste, on a beaucoup moins d'obligations et les obligations semblent relativement légères par rapport aux avantages que ça pourrait nous amener, mais il est clair que ça nous donnera des obligations en matière de restauration.
Donc ça veut dire éventuellement des investissements et des coûts supplémentaires.
Tout à fait.
Supérieurs.
Tout à fait. Tout à fait. C'est une des questions à se poser. Effectivement, les restaurations, alors, on nous a aussi garanti des financements qui seraient supérieurs à ce qu'il serait si le petit théâtre n'était pas classé. Est-ce que ces financements compenseront les coûts supérieurs? Je ne peux pas vous le garantir ce soir. Donc la question à se poser, c'est justement, entre les contraintes et les avantages, quel choix fait-on en sachant qu'on ne peut pas ce soir et que les personnes des monuments historiques ont été dans l'incapacité de me dire et de me chiffrer ce qui serait en matière de contraintes nos obligations au moment de la restauration. Elles m'ont parlé de pièces sur lesquelles elles seraient très attachées.
Justement, par rapport à vos propos, est-ce que ce n'est pas une délibération qui arrive trop tôt, à partir du moment où on ne sait pas ce qu'on va y faire à l'intérieur? Parce que, enfin, je redis ce que j'ai dit plusieurs fois, mais oui, au petit théâtre, pas de souci, mais pour quel projet culturel? Et donc, à partir du moment où on n'a toujours pas de projet culturel à l'intérieur, pas d'études de programmation, on ne sait pas ce qu'on va y faire, quelque part. Donc, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour être classé, en sachant que ça nous amène des contraintes, que peut-être demain, le projet que l'on voudra faire, ou que votre majorité voudra faire, finalement, pourrait peut-être avoir quelques contraintes? contradiction avec ce placement-là. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de voter ça, parce que le monde ne sait toujours pas quel, enfin, qu'est-ce que, ce que l'on va faire à l'intérieur?
Alors, le projet culturel avance, début janvier, on va pouvoir vous en parler, mais ce qui est sûr, c'est que de ce petit théâtre, on ne veut rien faire qui ne soit pas ce qu'il était auparavant. C'est-à-dire que notre souhait, c'est de le restaurer tel qu'il était auparavant et de l'utiliser dans ce qu'il a de spécifique. Donc, il n'est pas question d'en modifier ni l'acoustique, ni l'intérieur, ni l'extérieur de façon importante. On souhaite le garder tel qu'il était à l'époque. Donc, le restaurer tel qu'il était à l'époque, ça correspond complètement à notre projet. Et on adaptera le projet culturel aussi au lieu, et non pas le lieu au projet culturel. Et c'est dans ce sens qu'on travaille. Voilà pourquoi il ne nous a pas semblé inadéquat de pouvoir proposer ce classement, d'autant plus que travailler avec la DRAC sur le projet culturel, c'est aussi travailler en fonction de ce qu'ils nous accorderont au titre de la préservation de ce patrimoine. Puisque le projet culturel va être lié au patrimoine et non pas le contraire. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà.
Moi, personnellement, nous ne connaissons pas le projet culturel. Ouais, donc moi je m'abstiendrai par rapport à. Même si l'inscription peut être une bonne chose, mais il aurait peut-être été bien de faire voter les deux en même temps, comme ça au moins ça, c'est quelque chose effectivement de clair et d'affirmé.
Alors en sachant quand même, je précise que la DRAC nous a imposé de réfléchir à cette question pour après travailler avec nous et financer notre projet culturel. Donc moi je veux bien qu'on tourne en rond de façon schizophrénique, mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à tirer le bout de la ficelle, de même que l'auto du patrimoine, on peut aussi dire que c'est trop tôt parce qu'on n'a pas le projet culturel, c'est maintenant et ce ne sera plus après. Donc soit on dit on arrête tout et on renonce à des possibilités d'aide sur cette restauration et on attend d'avoir une programmation ferme et définitive, soit quand même on commence à risquer quelques pas dans le sens de cette restauration, tout en travaillant, je le redis, sur le projet culturel qui va bientôt aboutir. Et la DRAC nous dit votre projet culturel sera fonction de ce qu'on va faire du bâtiment. Donc il y a un moment donné où moi je ne sais plus par quel bout il faut prendre le projet, donc on l'a pris par le plus simple, en disant la DRAC est un partenaire essentiel qui peut autant aider notre projet que le bloquer, à tous les points de vue, y compris sur la programmation. Donc voyons ce qu'ils nous proposent et allons dans leur sens, au moins dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit très coercitif pour notre projet. Et au moins, on commence à démarrer quelque chose.
D'accord. Vous nous parlez de janvier, donc est-ce qu'on a un mois prêt pour avoir une vision complète? C'était juste par rapport à ça. Après, la DRAC, effectivement, un investissement, elle sera présente, il y a un plan de relance, il n'y a pas de souci. La DRAC vous a dit qu'elle serait là dans le fonctionnement aussi après pour payer?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut qu'on. On doit reparler avec la DRAC et avec. Projet aussi avec la Chapelle Harmonique, on a une convention à vous proposer au prochain conseil municipal qui va commencer à préfigurer la programmation de ce petit théâtre. Ce que je peux vous dire là aujourd'hui, c'est que ce petit théâtre sera chapeauté, sera en lien total avec la Guérétoise et avec l'espace André Lejeune, et que l'idée c'est d'avoir une programmation complémentaire et complètement différente à ce qui se fait sur ces deux bâtiments. Mais ça sera programmé de concert par l'équipe qui est actuellement en place sur la gestion culturelle de la ville, et que ça sera totalement intégré dans ce circuit de programmation. Voilà. Mais en lien complet avec ce qu'est le petit théâtre, cette petite bonbonnière qui, effectivement, s'adaptera à certains types de spectacles et pas à d'autres. Et donc la convention avec la Chapelle Harmonique, au prochain conseil municipal, on va pouvoir vous la proposer.
Merci.
Monsieur Vernier et puis Monsieur Delettre.
Merci pour cette protection. Vos propos m'amènent à une question. Vous venez donc d'affirmer que vous garderiez 3 salles de spectacle sur Guéret.
Oui.
Est-ce que vous le confirmez?
Oui, je le confirme, monsieur. Monsieur Delet.
Oui, je voulais juste rappeler que au-delà de l'utilité de cette salle pour un complément de programmation culturelle, le petit théâtre, c'est aussi un monument du patrimoine local qui, à ce titre, doit être effectivement remis en état pour être une source d'attractivité pour les touristes. Donc, que l'on soit accompagné par la drague, quand bien même il y aurait des contraintes supplémentaires à cet égard, si on doit considérer le petit théâtre dans la multitude de ses fonctions, il me semble effectivement important que ce soit inscrit au patrimoine, à la protection du patrimoine. Voilà, y a pas que les, enfin, bien sûr, il y a des enjeux culturels, hein, j'entends bien, mais il y a aussi d'autres dimensions de ce petit théâtre qu'on a déjà largement rappelé.
Monsieur Gargadonnet.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit la drague, c'est-à-dire que c'est le lieu qui va imposer un certain nombre de spectacles culturels. Plutôt que de passer du temps à se poser la question des projets culturels, je pense qu'il faut avancer avec la drague, qui pourra nous accompagner au mieux, sachant qu'effectivement, dans ce genre de petit théâtre, voilà, il y aura un certain nombre de spectacles en lien avec l'espace qui sera réaménagé. Si on travaille sur un projet culturel le temps que le petit théâtre soit rénové d'ici 2-3 ans, il faudra parier que les acteurs qui se positionneraient éventuellement d'ores et déjà pour travailler sur le projet culturel auront entre-temps eux aussi évolué, voire seront remplacés par d'autres. Donc en fait, il faut qu'on avance enfin sur ce dossier avec des partenaires qui puissent nous permettre d'enclencher le processus de rénovation enfin, de ce petit théâtre. Comme ça a été dit aussi, c'est un élément du patrimoine. C'est un atout supplémentaire au niveau de la politique culturelle qui permettra de diversifier l'offre culturelle. Donc je pense qu'il faut enfin avancer.
Monsieur Correa.
J'entends bien tout ce qui est dit, mais justement, Madame le maire vient de nous dire qu'elle travaillait sur les deux en parallèle. Vous travaillez dessus, donc voilà, les deux sont parallèles. On aurait juste peut-être pu attendre la totalité des choses. Vous dites c'est au mois janvier, donc est-ce qu'on est à un mois près? Pourquoi? Imaginons que dans le projet culturel, avec l'étude de programmation, on dise finalement la régie, elle était décalée d'un mètre, ça arrangerait peut-être tout le monde. Du coup, là, comme on s'est lié avec la DRAC, on ne pourra rien toucher, et peut-être que, comme on ne pourra rien toucher, ça entraînera un surcoût de rénovation que peut-être on aurait pu se passer, parce qu'à l'intérieur, voilà, il y a des choses qui sont modifiables quand même. Ça joue beaucoup sur l'aspect patrimonial et attachement. Voilà, c'est juste ça. Mais parfois, le diable se cache dans le détail. Et est-ce qu'il faut se mettre pieds et poings liés d'emblée avec la DRAC? Encore une fois, c'est technique. Imaginez, on nous dit, mince, la régie finalement, elle serait mieux sur le côté que plutôt là comme ça. Ah ben non, on peut plus. On s'est lié avec la DRAC. Parce que la DRAC va nous dire, OK, ils sont toujours bien pour mettre que des contraintes, et finalement, le financement ne va pas toujours en face. Bon, là, il y a le plan de relance, vous voyez, mais est-ce que, le vote de la totalité, le projet culturel, donc vous nous dites que vous avancez en parallèle, et c'est très bien, donc ça veut dire que vous ne perdez pas de temps. Bon, donc les inquiétudes qui sont posées, vous avez apporté des réponses. Donc vous avez travaillé en parallèle, et vous nous avez dit au mois de janvier. Peut-être qu'on nous aurait vu, nous, tout voter au mois de janvier. Parce que là, on aurait été sûr qu'éventuellement, de tout classer ne nous amène pas des contraintes supplémentaires par rapport au projet, sans que ça nuise à la qualité de la rénovation du bâtiment qui peut être fait. J'arrête.
Madame Bourdier a demandé la parole.
Oui, le constat que je fais, c'est que avec des peut-être, au bout de 30 ans, moi je jouais il y a 30 ans dans le petit théâtre pour rassembler les quelques sous qui permettraient de le mettre hors d'eau. Alors aujourd'hui, j'entends bien qu'on peut encore différer, mais moi aussi je suis d'avis que ça avance. Je pense que le classement aux monuments historiques ne peut être qu'une chance supplémentaire de valoriser cet élément de patrimoine. Les contraintes que ça va induire, elles existent, mais quand on s'y connaît un temps, soit peu en spectacle vivant, on sait très bien que il ne s'agit pas simplement de fabriquer des coquilles vides, mais un simple dispositif scénique peut servir à peu près à toutes les structures. On peut même faire quelque chose, moi je l'avais préconisé au moment de la campagne, d'assez peu cher finalement, en utilisant déjà tout ce qui existe dans Guéret, dans les salles de spectacle. Elles ne servent pas toutes en même temps, on l'a dit, il ne faut pas multiplier les programmations ni les faire se superposer. Donc ça veut dire que les équipements techniques peuvent voyager d'une salle à l'autre. Moi, je me suis entouré des plus grands spécialistes sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je peux dire très clairement qu'on peut faire de ce petit théâtre un monument historique et le faire rapidement. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et par la suite, faire une programmation assez éclectique qui conviendra à tout le monde et sans contrainte justement technique gênante pour les opérateurs qui sont en interne.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bien, alors je vous propose de valider le dépôt de demande de protection au titre des monuments historiques et de solliciter en parallèle l'application et la substitution du PDA de 2013 à ce nouveau périmètre et de m'autoriser à signer les documents à intervenir. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Si vous en êtes d'accord, à l'unanimité, je ne me suis pas trompée. Si vous le permettez, nous allons aborder là le deuxième sujet qui est la création du service de tranquillité publique. Et nous avions en dossier numéro 8 la subvention du Fonds interministériel de prévention de la délinquance sur les caméras. Donc je vous proposerai, comme c'est un sujet qui est, les deux sujets sont extrêmement liés et vont sûrement faire l'objet d'une discussion extrêmement similaire, de lier ces deux sujets, d'évoquer d'abord avec vous la cellule de tranquillité et ensuite les caméras pour qu'on puisse gérer ce sujet globalement. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce changement à l'ordre du jour ? Non ? Je vous remercie. Alors, le service de tranquillité publique. Je vais sortir un tout petit peu du rapport tel qu'il vous est proposé pour expliquer un petit peu le contexte et que tout le monde soit bien sur le même niveau d'information. On a réfléchi à cette cellule de tranquillité publique d'abord parce que le sentiment d'insécurité mettait, on le rappelle, cette problématique en tête des préoccupations dans des derniers conseils de quartier juste avant les élections. Ce constat avait été renforcé lors des assises de la sécurité qui ont été organisées à la préfecture au printemps 2020, où j'étais présente, et on était le seul département où il n'y avait aucune police municipale, et les habitants regrettaient, l'ont dit très clairement lors de ces assises, leur garde champêtre, parce que c'était des missions de proximité qui avaient disparu avec ce type de métier. Vous rappelez aussi, et vous donnez comme contexte, qu'en 2020, sur 10 mois, les 10 mois qui viennent de s'écouler, on a eu 19 sinistres volontaires qui ont été répertoriés sur principalement les écoles, l'espace Fayol, le CPM, ce sont les premiers lieux des incivilités. Et ça, c'est ce que nous avons répertorié en tissant des liens réguliers avec le commissariat et en tenant un registre des signalements. On ne compte pas là les plaintes multiples du début de mandat qu'on n'avait pas eu encore le temps de répertorier et ce qui ne nous revient pas. Les habitants qui subissent et qui n'en parlent pas ou pas tout de suite. Donc ces chiffres sont à prendre avec du recul. Mais juste la semaine dernière, sur une semaine, un problème d'occupation d'immeubles avec l'usage de produits illicites et des violences verbales envers les habitants qui s'insurgeaient. Des dégradations dans la ville, une carcasse de moto sur la voie publique qui pouvait provoquer des accidents et des menaces vives envers notre agent quand il a voulu intervenir, un conflit de voisinage violent avec un signalement à l'aide sociale à l'enfance, juste sur une semaine. Tout ça pour dire que le problème d'insécurité sur Guéret n'est pas une hypothèse. Alors, quelle réponse on vous propose aujourd'hui ? D'abord, dans le contexte de la cellule de tranquillité publique, on a souhaité réorienter le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, sur la tranquillité publique, ce qui ne met en aucun cas fin aux mesures éducatives et préventives qui se faisaient auparavant. On s'est seulement dit que la mairie sait faire en matière d'éducation et de prévention, que ses missions continuent, mais que maintenant, elles n'ont plus leur place dans un CLSPD qui doit davantage évoluer sur de la tranquillité publique. On relance les cellules de veille et de concertation territoriale qui étaient des outils très important pour faire autant de la prévention que du traitement des problématiques de tranquillité publique. On a créé ce que je viens de vous exposer tout de suite, un registre informatique des signalements qui permettent des réponses immédiates. Les gens savent immédiatement qu'on a pris note de leur demande et quelles solutions on va y apporter. Et on a un suivi de ces signalements. On voit au bout de quelques temps si les choses se sont arrangées ou pas. On a renforcé nos liens avec le commissariat. Il y a un entretien hebdomadaire entre notre délégué à la sécurité et le commissariat pour savoir comment s'est passé le week-end et comment risque de se passer la semaine et ce qu'on a à faire. On a mis en place une permanence gratuite d'avocats pour les personnes qui pourraient en avoir besoin dans nos interventions de proximité. On va rééditer le livret de la sécurité qui avait été fait sous la mandature précédente et qui est un outil extrêmement intéressant. Et on va travailler sur la valorisation des travaux d'intérêt général. Donc tout ça, c'est le contexte de notre cellule de tranquillité publique et de la vidéo protection dont on va vous parler tout à l'heure. Ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas un dispositif isolé, c'est un dispositif qui appartient à une globalité. Alors cette cellule, on l'a envisagée à partir de 5 équivalents temps plein. 3 agents de surveillance de la voie publique, dont un de ces trois serait en position d'encadrement. Et avec ces 3 agents, en parallèle, 2 médiateurs. Alors, les agents de sécurité, de surveillance, pardon, de la voie publique, leur rôle, c'est le rôle traditionnel de ces agents, les infractions qui sont liées au stationnement, la prévention sur la voie publique et entre autres la prévention à l'entrée et à la sortie des écoles, les infractions relatives aux règlements sanitaires, là vous avez tout ce qui est du dépôt sauvage, chiens dangereux, les renseignements et la présence auprès des habitants. On voudrait que nos agents soient vraiment repérés comme personnes ressources et que les habitants sachent physiquement à qui s'adresser en cas de problème et l'habitude de les voir circuler. Les interventions de première instance et l'appel au commissariat si c'est nécessaire. On ne fait pas le travail du commissariat, mais on peut être amené à intervenir en première instance pour mesurer le problème. Ce sont des agents qui sont assermentés. En parallèle, 2 postes de médiateurs. Alors, ces postes de médiateurs sont dédiés à l'accès au droit et à la tranquillité publique. Une présence de proximité, là aussi, et une veille sociale, c'est important. Un regard particulier qu'on leur demande sur les jeunes qui sont en voie de marginalisation et qui sont à l'origine de nombreux problèmes sur la ville. On leur demande d'assurer le suivi des interventions des ASVP, c'est important. L'idée, c'est que nos ASVP n'interviennent pas à un moment T, et qu'on ne sache plus comment la situation évolue. Donc systématiquement, quand il y aura une intervention d'un ASVP, il y aura derrière l'intervention d'un médiateur qui verra si les choses se sont calmées, si les personnes ont été bien orientées sur les services adéquats, ou s'il faut le faire. Voilà, donc l'orientation sur les services compétents, ça sera aussi un rôle fondamental pour les médiateurs. Donc on est bien dans de la prévention et de la pédagogie et pas du tout dans une réponse pénale. Alors en matière de ressources humaines, on n'a qu'une création de poste d'un ETP, donc d'ASVP. Ce poste pris en charge à 80% ne laisse que 20% de prise en charge à la ville de Guéry. En tout et pour tout, c'est la seule chose que ça nous coûtera en ressources humaines. On a travaillé à partir de la réorganisation des services. Ces services auront un local où ils seront ensemble, un open space où ils vont pouvoir travailler ensemble, avec un bureau de permanence où ils pourront recevoir aussi de façon individuelle les personnes qui le souhaiteraient. On a une aide de l'État sur le poste de chef de service pour la supervision. Donc là aussi, c'est un coût qui ne sera pas imputé à la collectivité. Ce service serait mis sous la hiérarchie de la directrice générale adjointe des services pour être au plus près du maire, des pouvoirs de police du maire. En commission mixte, il a été posé la question du matériel. Pas de matériel spécifique, sinon on a déjà un véhicule d'affecté, sinon un second véhicule ou des vélos électriques. Notre délégué à la sécurité tient beaucoup à ce mode de transport qui effectivement pourrait être tout à fait judicieux. Et donc je vous le redis, le personnel existe. On réorganise, on restructure et surtout ce qu'on voulait c'était identifier très clairement la mission. Voilà, donc je terminerai en vous laissant la parole pour vous dire que ce qu'on souhaite faire, si vous valider la création de ce service, c'est dans quelques temps aller consulter nos concitoyens pour savoir effectivement s'ils trouvent du bénéfice à ce travail, s'il faut qu'on l'oriente un peu différemment, si on est dans le bon sens. Et ce n'est qu'après consultation de ces citoyens et expérimentation de ce dispositif qu'éventuellement on se posera la question d'une police municipale. Ce n'est pas une nécessité. Il faut une formation, de toute façon, qui nous demandera du temps. Si ça s'avère nécessaire, on le fera. Sinon, ce n'est pas une obligation. On avait prévu un déplacement à Tulle, où ils ont une police municipale et qui serait dimensionnée à peu près comme la nôtre pour voir un petit peu comment elle fonctionnait et surtout quel type d'horaire semblait les plus adéquats pour ce style de service. Avec la Covid, on a dû remettre ce voyage en début d'année, mais donc on va le faire dès que possible pour voir effectivement prendre l'expérience où elle se trouve. Et bon, je vous invite, ceux qui le souhaiteraient, à participer à ce voyage pour voir avec nous comment ça fonctionne sur Tulle et comment nous on peut harmoniser un petit peu notre travail autour de cette cellule de tranquillité publique. Voilà. Donc, on est à votre disposition s'il y a des interventions, des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Madame Bonnat.
Oui, sans surprise, effectivement, nous allons intervenir sur ce sujet. Merci d'avoir rassemblé les deux sujets qui, effectivement, concernent tous les deux deux volets d'une approche sécuritaire. Sur ce sujet-là, effectivement, il a été abordé dans plusieurs commissions, la commission ressources humaines notamment, mais aussi la commission qualité de vie, dont l'intitulé, là aussi, pouvait laisser perplexe, mais finalement, derrière cette notion de qualité de vie, il y a cette notion de tranquillité publique. Et enfin, la semaine dernière, en commission mixte de préparation du conseil municipal, où les autres groupes politiques sont présents et ont pu vous poser un certain nombre de questions, auxquelles vous avez apporté une réponse dans votre préambule. La création d'une police municipale était une mesure phare de votre programme, prévoyant un service de 25 à 30 personnes. Ce dont nous prenons acte ce soir, c'est que vous ne mettrez pas en œuvre cette mesure avec la création de ce service de tranquillité publique.
Non, retrouvez-moi un document où on a parlé de 25 à 30 personnes, c'est hallucinant. On n'a jamais été sur ces chiffres-là, jamais.
Sur une création de police municipale, en revanche, c'était un élément programmatique important. Donc nous souhaitions vous alerter, mais vous avez répondu en partie, c'est dommage que nous n'ayons pas eu des éléments un petit peu avant le Conseil en tout cas. Donc vous avez répondu en partie sur les deux points qui nous paraissaient les plus importants et que nous avions évoqués lors de la commission mixte, c'est-à-dire les missions énumérées et qui n'étaient pas forcément très claires. Il vous avait d'ailleurs été demandé par les collègues de Guéret en commun de présenter des fiches de poste des agents de ce service pour mieux connaître leur mission précise, c'est ce que vous venez de faire. Et d'autre part, l'articulation du travail des agents municipaux avec les autres acteurs en charge de la sécurité publique notamment, mais aussi en charge de la prévention. Vous avez répondu également partiellement. Donc sur la surveillance de la voirie publique, sur cette première mission, donc vous nous confirmez que ce sont bien des agents de surveillance de la voie publique assermentés pour des missions de police, et non une police municipale déguisée, ou en tout cas qui ne dirait pas son nom. Donc vous nous avez précisé les missions pour lesquelles ces agents seront assermentés, donc effectivement sur tout ce qui concerne règlement sanitaire, voirie publique, stationnement, ordures, etc., propreté, donc nous le notons. Concernant le service médiation sociale, alors effectivement là on sort aussi également du flou qui avait pu nous être présenté lors de la dernière commission mixte, où on nous avait parlé d'intervention sur les missions, sur les violences conjugales, etc., visiblement. Donc vous avez revu un peu votre copie, et les interventions des médiateurs sociaux paraissent plus clairement être de la médiation sociale et non du travail social. Alors je crois que c'était ce qu'on avait un peu souligné en rappelant que, effectivement, le travail social, c'est l'accompagnement des personnes et que ce ne sont pas les missions d'un médiateur social. Donc effectivement, nous avons plus de précisions ce soir. Et ça nous permet d'avoir une vision un peu moins peut-être confuse des rôles et des missions de chacun, puisque nous tenons bien sûr à souligner le travail des acteurs associatifs ou des autres collectivités territoriales. Enfin, nous souhaitions comprendre, et là de nouveau vous venez de répondre en partie, comment ces missions de tranquillité publique pouvaient s'articuler et se coordonner avec les missions d'une police nationale, car l'inquiétude que nous pouvions avoir, c'était une forme de glissement de tâches ou de substitution des interventions faites par la police nationale par les agents municipaux du service de la tranquillité publique. Or, c'est vrai que nous réaffirmons officiellement et publiquement ce soir que nous croyons à une police nationale et républicaine et que nous saluons leur travail. Nous rappelons également que la présence dans notre ville de cette police d'État nous semble essentielle et le commissariat de police de Guéret est non seulement un outil important en matière de répression, mais aussi pour la prévention. Enfin, vous en avez parlé également, et je pense qu'on pourra peut-être y revenir un peu, nous croyons au partenariat avec l'État, les autres collectivités ou associations à travers des instances de concertation, comme le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous avez l'air de nous dire, mais vous en direz peut-être quelques mots, que les missions de prévention sont sorties de ce conseil, de ce CLSPD, comme on l'appelle couramment, ce qui nous interroge, car je pense qu'il faut vraiment les trois piliers d'une politique de tranquillité. Donc vous créez effectivement un service avec un affichage politique fort en direction des administrés de cette ville. Vous avez évoqué quelques éléments de diagnostic en matière de tranquillité publique, alors des éléments dont l'ancien maire avait pu nous dire, il en dira peut-être, je lui laisserai la parole, avait pu nous dire qu'il était un peu perplexe sur certains éléments, et il en citait d'autres au contraire. Donc, moi, je voulais vous interroger effectivement sur ce diagnostic en matière de tranquillité publique et de sécurité, mais aussi en termes de coûts, le nombre de plaintes, etc. C'est vrai que le rapport de cette délibération évoque notamment le rapport du représentant de la police nationale. On n'a pas forcément de chiffres, vous en donnez là quelques-uns. Est-ce que vous en avez d'autres que vous auriez pu nous communiquer pour effectivement faire un diagnostic un peu plus précis? Et voilà, donc sans négliger une éventuelle mission répressive lorsque cela le nécessite, nous y sommes attachés également, hein, sans naïveté ni angélisme. Je pense aux verbalisations en matière de stationnement, de propreté, aux incivilités diverses qui existent, effectivement, à Guéret. Nous nous interrogeons quand même sur la place accordée aux missions de prévention dans une stratégie globale.
Je vais passer la parole à M. Vernier s'il le souhaite, mais je vais vous répondre. Alors déjà, si vous le souhaitez, M. Vernier, bien sûr. Déjà, je voulais juste dire, difficile de déguiser une police municipale quand on sait à quels critères extrêmement précis répond cette mission en matière de formation, entre autres. Donc, je ne sais pas comment on fait pour déguiser une police municipale. Vous dire que les missions de prévention, elles se situent à différents niveaux. La prévention, c'est une conception extrêmement large. Les missions de prévention telles qu'elles étaient au CLSPD jusqu'à présent, c'était des missions de prévention extrêmement précoces, qui, bien entendu, sont fondamentales, sont exercées et très bien exercées par les services de la ville depuis longtemps et continuent à l'être avec la même qualité. La seule chose qu'on vous a dit, c'est qu'on pense que ces missions de prévention n'ont pas à être à l'intérieur d'un CLSPD. Elles existent, c'est un pilier de la tranquillité publique, ça n'a pas forcément lieu d'être soumis au regard de l'État, alors que la municipalité les assume à 100% et les assume bien. Donc, les trois piliers dont vous parlez sont tout à fait assurés dans des dispositifs qui sont maintenant séparés, mais qui sont de toute façon menés dans le cadre des missions de la ville de Guéret. Quant aux éléments factuels consultables, ils sont justement on ne peut plus concrets. C'est le relevé de notre cahier de signalement qui est ouvert à tous ceux qui souhaitent le consulter. Ce sont des chiffres qu'on a nous-mêmes constatés. Donc, ce ne sont pas des approximations, ce ne sont pas des idées sur un vague sentiment d'insécurité. Ce sont des chiffres. Et donc, on les tient à votre disposition. Quant au coût du délégué national de la police nationale, je n'ai pas compris. L'expert de la police nationale nous a aidés dans l'évaluation du lieu, on va en parler tout à l'heure, où on pouvait poser nos caméras et sur le coût de ces caméras. Mais en aucun cas, il n'est intervenu sur le diagnostic qu'on a posé et qui, je le répète, ne relève que des incivilités qui sont constatées sur la ville et qui relèveraient éventuellement d'une intervention précoce de notre service de tranquillité publique. Donc ces chiffres sont à votre disposition si vous souhaitez les consulter. Ils sont tout à fait tangibles. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais vous saurez me le redire. Quant à la police nationale, il a été question que nos services contribuent jusqu'à éventuellement, sur certaines thématiques, pouvoir faire en commun des formations qui permettraient à chacun de comprendre où se situe l'intervention de l'autre et jusqu'à quel niveau il ne faut pas aller. Donc on est vraiment sur un dialogue extrêmement constructif avec le commissariat et pas du tout sur l'idée de prendre la place d'eux ou de permettre que les services de l'État quittent notre ville, bien au contraire. Par contre, je pense que personne ne contestera le fait que la police municipale est occupée sur des choses qui ne relèvent pas forcément de sa compétence et qui les empêchent d'aller sur les lieux où là, ils seraient sûrement très utiles. Et quand trois gamins cassent des bouteilles sur la route, c'est pas forcément une intervention de la police municipale qui est nécessaire, et pendant ce temps-là, ils ne vont pas. De nationale, oui, pardon. Voilà. Est-ce que M. Correa,
Brièvement, juste sur la. Nous sommes tous concernés sur la problématique de l'insécurité dans le guéri. Il faut aussi que tous collectivement fassent attention comment on communique, parce que c'est aussi un critère d'attractivité quelque part. N'oublions pas que le département de la Creuse est le département le plus sûr de France et que ça fait partie des éléments d'attractivité de notre territoire. On souhaite gagner de la population et qu'il faut faire attention aussi de la manière dont on vit. Et ça, c'est collectivement. Néanmoins, il y a des soucis, il faut les prendre en charge. Ça. Il y a de l'incivilité, il y a aussi de la violence. Parfois, je crois que c'est intéressant de vous montrer. Mais soyons vigilants sur les mots utilisés et l'écho que l'on peut donner, parce que, effectivement, encore une fois, le fait que nous soyons un des départements les plus sûrs de France est aussi un élément d'attractivité, donc c'est aussi quelque chose de positif. Enfin, dernièrement, pour dire que, certainement vous aussi, mais j'ai reçu les forces commissariales il n'y a pas longtemps. Il y a eu un livre blanc sur la police et qui, encore une fois, parce que c'est pas nouveau, propose la disparition du commissariat de la ville de Guéret. Évidemment, nous sommes totalement opposés. Parce que je rappelle que l'exemple a eu lieu il y a quelque temps à Libourne, par exemple, où on a remplacé 80 policiers par 30 gendarmes. Voilà. Donc, au-delà de la problématique de prise en compte de la sécurité, je n'ai aucun doute sur le fait que les gendarmes aussi prennent très bien en charge la problématique de la sécurité, il n'y a pas de souci. Là, on a un service public ouvert 24 heures sur 24 avec toujours quelqu'un de présent. La gendarmerie, il y a toujours quelqu'un de présent aussi, mais parfois il y a des délais d'intervention plus longs parce qu'il y a des permanences, effectivement, et la gendarmerie, parfois, est responsable d'un secteur qui sont de plus en plus grands, peut mettre un peu plus de temps à venir. Donc, soyons vigilants sur le fait de garder un commissariat et peut-être même, je fais la proposition, parce que suite à ce rendez-vous, j'ai commis de l'Intérieur au Premier ministre, pourquoi pas éventuellement élargir le territoire d'intervention de la police, en bonne intelligence avec la gendarmerie, et de prendre, pourquoi pas, l'agglo. Comme ça, on sécurise une bonne fois pour toutes un commissariat sur la ville, parce que derrière, c'est aussi, excusez-moi, mais c'est aussi de l'emploi, que je préfère peut-être avoir 80 familles que 30 sur un territoire pour la population. C'est aussi important, on a déjà perdu assez de fonctionnaires comme ça sur notre ville. Voilà, donc réfléchissons collectivement comment on peut bien consolider et qu'on ne soit pas obligé de revenir tous les 4 ou 5 ans parce que le député de la Creuse, Michel Vernier, est intervenu déjà plusieurs fois pour sauvegarder et de dire « touchez pas à notre commissariat » quelque part. Donc, on en est toujours là, on en est encore là. Et donc, plutôt que de dire « non, n'y touchez pas », non, ça vous n'y touchez pas, mais faisant une proposition que peut-être le commissariat soit compétent à l'échelle du territoire de l'agglo, en lui donnant les effectifs qui vont bien pour, et une bonne fois pour toutes, on le consolide. Voilà.
J'adhère totalement à vos propos, M. Correa. J'adhère, je confirme aussi que le risque est réel. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que prochain conseil municipal, on en aura sûrement un exceptionnel en janvier, qu'on puisse adresser une motion à la préfecture pour indiquer quelles sont nos préoccupations et quel est notre intérêt pour la permanence, voire le développement du commissariat de police de Guéret. Monsieur Vernier, vous vouliez intervenir ? Madame Bourdier.
Oui, on a
changement d'ordre du jour qui fait que moi j'avais prévu d'intervenir un petit peu sur la question de la police municipale qui effectivement entre temps est devenue un service de tranquillité publique. Donc je ne peux que me réjouir de l'atténuation et du propos et de sa mise en œuvre. Je voulais donc intervenir effectivement sur trois points. D'abord, la question de la pertinence sur Guéret de ce service. On est dans une multiplication assez générale des incivilités un peu partout. Vous le savez, moi, je suis dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Et je crois qu'effectivement, il y a un très gros travail et un gros investissement à faire du côté des plus jeunes, hein, avant même de songer à faire de la police, il faut déjà faire de l'éducation. Donc je pense qu'il faut poursuivre ce travail avec les écoles primaires et puis les collèges, bien sûr, les lycées. Donc ça, c'était le premier point. Et la question de la pertinence dans une ville qui est considérée comme très sûre par ailleurs, il faut arriver à faire la frontière vraiment claire entre la délinquance pure et dure, dangereuse, violente, et puis la civilité quotidienne, désagréable, qui embête tout le monde. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous compose. Le deuxième point, c'est le coût que ça va avoir, parce que effectivement, si on est sur des postes qu'on redistribue et si on fait travailler des gens dans un contexte qui est bien défini par des fiches de postes qu'on a exigées et qui conviennent en grande partie à ce qu'on souhaite, c'est pas la même chose que d'engager des frais énormes pour construire une vraie police qui. Et nous qui l'avions dit, si on devait assurer une police municipale nuit et jour, il faudrait effectivement une bonne vingtaine de policiers à minima municipaux, et donc un budget considérable dont la ville ne dispose pas. Et puis le troisième point sur lequel je voulais aller, il a déjà été souligné, c'est la question des risques, hein, c'est la question de l'attractivité effectivement de la région, comment on communique sur cette question, et puis le problème de la disparition éventuelle de l'implication de la police nationale et de l'État. Et ça, c'est le constat est quand même fait couramment que quand on augmente les moyens côté de la collectivité territoriale et donc de la dépense publique locale, eh bien, on diminue automatiquement et largement celle de l'État dans la même zone, souvent même davantage. Donc la crainte de la disparition du commissariat est réelle en ce qui nous concerne. Donc nous sommes pour l'instant très très circonspect sur cette question.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Vernier?
Alors tout d'abord, moi je voudrais rétablir un certain nombre de choses parce que je suis toujours surpris en écoutant ce qui se dit, on va faire ceci qui ne se faisait pas. Alors moi je voudrais dire très clairement que le lien hebdomadaire avec le commissariat existait. Il avait lieu tous les vendredis après-midi. Nous avions un échange sur les faits avérés qui s'étaient passés la semaine. Et depuis que je suis maire, enfin, sauf pendant les périodes de vacances, tous les vendredis après-midi, il y avait un rendez-vous avec le patron de la police ou son adjoint quand le patron n'était pas là. Et il arrivait fréquemment, comme ça va être le cas pour vous, Madame le maire, qu'il vous appelle régulièrement chez vous le week-end, la nuit, pour vous signaler les choses. Ça fait partie du rôle du maire. Donc, j'affirme que ce lien hebdomadaire, allez, on va dire 35 fois par an, à l'initiative du commissariat, d'ailleurs, existait. Et je ne vois pas pourquoi on dirait aujourd'hui, tiens, on va faire comme ça parce que ça n'existait pas. De même, la cellule de veille se réunissait très régulièrement dans le bureau du maire de Guéret, à l'initiative du maire. Elle regroupait le directeur de la sécurité publique, la directrice ou le directeur de cabinet du préfet, quand ce n'était pas le préfet, et le procureur de la République, qui nous honorait régulièrement de sa présence, et nous abordions là tous les points forts, les points délicats. Et dans mon rôle de maire, je convoquais ensuite, quand ça concernait notamment des mineurs, un certain nombre de familles avec des enfants pour les mettre en garde sur le comportement des adolescents, et pour leur signifier quelle était la démarche suivante, parce que ici, c'est le carton jaune, de l'autre côté de la rue, ça peut être